Du mot à la note, une émission présentée par Alain Nice.
Aujourd'hui, le retour d'Ulysse en sa patrie. Amis de la radio, bonjour. La tradition attribue au poète grec Homère l'écriture de deux épopées, Iliade et Odyssée. Épos, de nous avons tiré le mot épopée en fin de XVIIe siècle, c'est la parole qui raconte. Et l'Iliade, c'est bien l'épos des 55 derniers jours du siège de l'ancienne cité d'Ilios ou d'Ilion, c'est-à-dire aussi de Troie, que l'on croit reconnaître aujourd'hui sur la butte d'Hisarlik en Turquie, dans la région qui, comme jadis, porte le nom de Troade. Les Achéens, ou les Grecs, auront assiégé la ville pendant 10 années avant de pouvoir y pénétrer et la mettre à sac. À supposer que ces hauts faits ont vraiment eu lieu, on les fait généralement remonter au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, nous recevons l'Iliade comme une œuvre d'art et non comme un document historique. De même en va-t-il pour l'Odyssée, œuvre dans laquelle s'entremêlent le mythologique et le fantastique de manière encore plus accentuée que dans l'Iliade. L'Odyssée, c'est l'épos du retour d'Ulysse chez lui, dans l'île grecque d'Ithaque, dont, selon la légende, il est le roi. Le retour se comprend ici comme voyage. Un voyage dont la durée s'étend sur 10 années. Ulysse se sera donc absenté d'Ithaque pendant 20 ans. Plus près de nous, en 1558, à l'époque de la Renaissance, le poète Joachim du Bellay publie un recueil de 191 sonnets qu'il intitule « Les regrets ». Le héros Ulysse figure dans l'un de ces sonnets, mais là simplement pour y remplir la fonction de modèle. À l'expérience du voyage, il convient de préférer la douceur du foyer qu'il importe de retrouver au plus tôt, nous dit du Bellay. D'évidence, il entend imiter la sagesse qu'il prête à Ulysse. Le retour d'Ulysse se comprend donc maintenant comme ce qui succède à l'accomplissement du voyage. Le texte d'Homère et celui de du Bellay nous parlent donc du retour d'Ulysse en sa patrie selon deux modes différents. Lequel donc nous servira aujourd'hui de socle dans la poursuite de notre exploration des adaptations musicales des œuvres littéraires ? Faut-il préférer la dynamique du voyage à l'immobilité du séjour enfin permis ? Prenons plutôt le parti de la continuité du mouvement au repos, puisque l'idée même de retour la suggère. Le retour d'Ulysse dans sa patrie commence donc après l'effondrement de Troie. La constance dans un acharnement de 10 ans fut la condition de ce succès. Les héros sont fatigués. Ils rejoignent leur navire. Ils les chargent des richesses acquises lors du pillage de Troie, après un partage équitable. Après aussi une juste répartition des sveltes captives, comme dit Homère. Les héros ont hâte de regagner leur cité et leur foyer. Calamos, une courte pièce de musique grecque dans la manière du VIe siècle avant Jésus-Christ, telle que des musicologues ont pu la reconstituer en collaborant avec des historiens et des philologues. Konrad Steinmann, que nous venons d'entendre à Lolos, est l'un d'entre eux. On peut considérer Lolos comme l'un des instruments précurseurs du hautbois. Très répandu dans l'ancienne Grèce, il se présentait comme une flûte double ce que l'on observe sur nombre de poteries retrouvées lors de fouilles dans les sites d'intérêt archéologique. Beaucoup d'auteurs aussi en font mention, tels Homère dans son Iliade ou encore Platon dans quelques-uns de ses dialogues. Retrouvons maintenant le mot « Odyssée ». Que signifie-t-il, au juste ? Avant de s'installer dans la langue française pour désigner un long voyage riche en péripéties, c'était tout simplement pour un grec d'autrefois le nom de celui que nous appelons Ulysse, francisant ainsi la traduction latine de Odysseus en Ulixes. Certains hellénistes croient reconnaître la racine Odyssomai dans le mot Odysseus, ce qui indiquerait qu'Homère entendait camper un personnage irritable, farouche. Il le désigne cependant, et très explicitement, comme le héros aux mille ruses ou aux mille tours. Le vaste poème d'Homère, composé de 24 chants qui totalisent 12 110 vers, rapporte ces ruses déployées par le héros lors de son interminable retour à Ithaque, les souffrances qu'il lui a fallu endurer aussi. Il faut cependant se demander pourquoi tous les chefs de guerre et leurs compagnons d'armes ont pu rejoindre rapidement leur foyer après la chute de Troie, alors qu'à Ulysse il a fallu 10 ans. C'est qu'Ulysse, l'impudent, a offensé Poséidon, le dieu de la mer, en rendant aveugle son fils, le cyclope Polyphème. La colère de ce dieu vindicatif se fait si terrible qu'il déchaîne contre Ulysse, tempête, déesses ensorcelantes et magiciennes. Et pendant que le héros erre sur la Méditerranée et ses rivages, tantôt aux prises avec un cyclope, tantôt se risquant à un passage entre les flots tourbillonnants de Charybde et le récif de Scylla, qu'il séjourne quelque temps aussi, et plutôt agréablement, chez la magicienne Circé, bref, qu'il connaît de multiples aventures aussi fantastiques que dangereuses pour sa vie, son épouse Pénélope l'attend à Ithaque.
Fallacissima speme, speranze non più verdi ma canote, all'invecchiato male non promettete più.
C'était à l'instant un fragment de la plainte de Pénélope, telle que l'a mise en forme le poète et librettiste vénitien Giacomo Badoaro, apportant ainsi en 1640 sa contribution à l'écriture du drame musical en un prologue et cinq actes de Claudio Monteverdi, qui porte le titre « Il ritorno d'Ulisse in patria », en français « Le retour d'Ulysse dans sa patrie ». Le soprano Gloria Banditelli tenait ici le rôle de Pénélope. L'ensemble Elima, dirigé par le chef argentin Gabriel Garrido, assurait l'instrumentation. Pénélope appelle au retour d'Ulysse, absent depuis 20 ans, nous l'avons entendu. Voici la traduction de quelques lignes de son appel. D'une reine malheureuse, les tourments ne s'arrêtent jamais. Celui que j'attends ne vient pas, alors que les années passent. Mes peines sont, hélas, trop nombreuses, et le temps est long pour qui souffre. Ô espoir trompeur, tu ne fleuris plus, tu es fané, et le mal qui est mien depuis si longtemps, tu ne m'en promets plus paix ou délivrance. Ulysse, tu abandonnes ton épouse fidèle à tes ennemis et rivaux, au péril de son honneur et de sa vie. Chaque départ engendre l'attente du retour. Toi seul as oublié le jour de ton retour. Pénélope vit en effet une bien difficile situation. Non seulement elle se trouve plongée dans une attente démesurément longue, mais il lui faut aussi résister aux demandes en mariage de prétendants à sa main qui, surtout, convoitent le royaume d'Ithaque. Qui détient quelques connaissances de l'Odyssée n'a pas oublié que la fidèle Pénélope, aussi rusée que son époux, remet sa réponse au jour qu'elle aura terminé la toile qu'elle tisse, prétendument, pour envelopper Laërte, le père d'Ulysse, le jour qu'adviendra son trépas. Elle omet évidemment de signaler à ses prétendants qu'elle défait consciencieusement la nuit ce qu'elle a tissé le jour. Le temps nous manquerait pour relater le détail des aventures d'Ulysse lors de son retour à Ithaque. Toutes n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'adaptation musicale, du moins à ma connaissance. Retenons-en seulement ce qui advient à Ulysse lorsqu'il quitte enfin l'antre de Calypso, en compagnie de laquelle il a passé 7 années, bien agréable, quoi qu'il en dise. La nymphe des mers, dont le nom Calypso signifie celle qui enveloppe, celle qui cache, avait recueilli Ulysse naufragé dès le début de son voyage de retour. Il en était devenu l'amant, après qu'elle lui eut promis une jeunesse perpétuelle et l'immortalité. Mais Ulysse s'est lassé de cette vie confinée dans l'île de Calypso. Les dieux, enfin résolus à aider Ulysse à regagner Ithaque malgré le tenace désir de vengeance de Poséidon, envoient Hermès, fils de Zeus, persuadait la nymphe de lui rendre sa liberté. Elle accepte. Elle assiste même Ulysse dans la construction d'un radeau. Et le héros prend la mer. Mais Poséidon, le frère ombrageux de Zeus, qui devrait se soumettre à sa volonté, n'en déclenche pas moins une tempête pendant la navigation d'Ulysse. Le naufrage ne tarde pas. Ulysse nage 3 jours, jusqu'à arriver sur une île inconnue avec l'aide de la bienveillante Athéna, fille de Zeus, déesse de l'intelligence spéculative, qui s'est attachée à la protection d'Ulysse. Recueilli, épuisé par la divinité Ino, dévouée aux marins en péril, Ulysse s'abrite dans un bois pour restaurer ses forces. Athéna, je cite Homère, pour chasser au plus tôt l'épuisante fatigue, lui fermait les paupières. Voici cet épisode de l'Odyssée, relaté dans une cantate créée vers 1715. Elle fut composée par Élisabeth Jacquet de la Guerre, que Louis XIV aimait à protéger. La cantate s'intitule « Le sommeil d'Ulysse ». On remarquera le déchaînement des instruments au moment de la tempête. Un air gracieux ramène ensuite le calme dans l'orchestre. C'est que Minerve, que la compositrice substitue à Athéna, sauve Ulysse, puis lui fait oublier son malheur en le plongeant dans un profond sommeil. C'était l'ensemble Les Voix humaines, dans ce large extrait de la cantate d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, Le sommeil d'Ulysse. La voix de dessus était celle d'Isabelle Desrochers. Peut-être convient-il de signaler qu'à l'époque de la musique baroque, on appelait voix de dessus celle dont la tessiture correspond à celle du soprano. Ulysse finira par débarquer à Ithaque. Il retrouvera son fils Télémaque. Il massacrera ceux que tout le poème d'Homère nomme les prétendants. Et il terminera ses jours auprès de Pénélope. C'est au point de cette vie apaisée, et donc désormais sans histoire, que se place le poème de Joachim du Bellay, publié en 1558. Comme Ulysse, lui-même a connu l'éloignement de sa patrie, mais pour de tout autre raison et pendant une durée plus courte. Il part en effet à Rome en 1553, en qualité de secrétaire de son oncle, le cardinal du Bellay. Ce séjour devrait combler les vœux de cet humaniste épris de culture antique, à cette époque en pleine Renaissance. Il déçoit pourtant amèrement le poète. Ses fonctions ne l'intéressent pas, et il n'a que mépris pour les courtisans de la curie romaine. Revenu 5 années plus tard à Lyrée, son village natal, dans l'Anjou, Du Bellay se plaît à se comparer à Ulysse de retour dans sa patrie. Mais qu'on ne se méprenne pas. Loin d'une invitation au voyage, pourrait-on dire, en reprenant le titre d'un poème de Baudelaire, un sonnet de Du Bellay inclus dans le recueil Les Regrets apparaît plutôt comme un contrepoint au mirage des pays lointains que l'on croit enchanteurs. Rien n'égale la douceur du foyer, nous avertit Du Bellay. S'en éloigner, dans l'ignorance du moment du retour, ne peut qu'engendrer une insupportable souffrance. Je lis ce sonnet. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestula qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit Lyrée que le mont Palatin. Et plus que l'air marin la douceur angevine. Écoutons une adaptation musicale de ce sonnet sous la forme d'une chanson dont la forme peut surprendre par le contraste de sa modernité avec un texte écrit au XVIe siècle. Le compositeur, de son nom de scène Ridane, l'interprète lui-même. Le texte original se trouve respecté. On constatera seulement la conversion d'un vers en refrain, ainsi que l'ajout de 2 strophes écrites par Ridane et qu'il a placées à la suite du tercet final du sonnet de Du Bellay.
Ou comme Sestula qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison?
Traverser les mers
à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale, et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Et quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Après un examen attentif, les deux strophes ajoutées par Ridan au texte de Dubélé produisent l'effet d'une interpolation. Écoutons-les. J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marées, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins soi-disant pavés d'or. Le propos ne modifie certes pas le sens du poème homérique. En effet, l'effort humain et la liberté trouvent mieux leur place dans l'Odyssée que dans l'Iliade, tout au long de laquelle les dieux se partagent leur influence sur la destinée des Troyens et des Grecs, comme si c'était eux, les immortels, qui s'affrontaient par le truchement des mortels, les hommes. Ce que Ridan infléchit pourtant, c'est l'orientation du poème de Dubélé, alors que c'est celui-là qu'il chante, pas le texte d'Homère. Joachim Dubélé a écouté le chant séducteur des sirènes, contrairement à Ulysse, auquel Ridan semble s'identifier dans le cadre de la conduite de l'existence quotidienne, domaine précisément auquel renvoie le poète de la Renaissance. Manifestement, la correspondance qu'a souhaité Ridan échoue à s'établir. On reste sur l'impression d'une contradiction, du moins en l'état de l'exposition du propos. Il eût mieux valu, sans doute, emboîter le pas à Georges Brassens. Lui aussi a évoqué le sonnet de Dubélé dans une chanson composée en vue de son insertion dans le film d'Henri Colpi « Heureux qui comme Ulysse », projeté en salle en 1970. Il n'en a certes retenu qu'un seul vers, le premier, mais l'ensemble de son texte reste fidèle à l'esprit du poème de Dubélé. Vérifions-le à l'instant.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays. Et vertes années, par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu cent paysages. Et puis à retrouver, après maintes traversées, le pays des vertes années. par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, qu'elle est belle la liberté, battue de soleil et de vent, perdue au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Autrement dit, vive le bon temps passé au vent et au soleil, avec ce cheval auquel s'est attaché Antonin, l'ouvrier de ferme incarné par l'acteur Fernandel dans le film d'Henri Colpi. Et vivent aussi les beaux paysages et la traversée des mers qui ont précédé le retour chez soi auprès des amis. Brassens nous dit cet enchantement permanent, celui du voyage égalant celui du retour. De quoi, finalement, faire douter de la bonne foi d'Ulysse, celui d'Homère, Odysseus. Ne s'est-il pas moqué du monde, cet Ulysse, le héros aux mille ruses ? Était-il si pressé de regagner Ithaque où l'attendait une sobre vie sans histoire auprès de la vertueuse et austère Pénélope ? Le bon temps, au vent et au soleil, ne l'a-t-il pas plutôt connu en compagnie de Calypso ? Jean Giono, dans son premier roman, Naissance de l'Odyssée, se plaît à peindre un Ulysse bon vivant, couard et hableur, qui se serait oublié en divers lieux des côtes méditerranéennes, non sans s'être forgé par après une belle histoire pour justifier son monstrueux retard auprès de Pénélope. On peut certes accueillir l'irrévérence de Giono, on peut aussi la repousser d'un haussement d'épaule, car à quoi bon tourner une légende en dérision ? Ce n'est pas la véracité de l'épos qui importe ici, mais bien plutôt ce qu'il donne à comprendre. Le compositeur André Caplet aura eu le mot de la fin en nous renvoyant, comme Ridane, au sonnet de Joachim du Bellay. Lui, dans cette très brève composition de 1916, s'est cependant limité à l'idée du sonnet que le poète a su exprimer en une seule strophe, la deuxième. « Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée ? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages ? » Amis de la radio, au revoir.
C'était Du mot à la note, une émission présentée par Alain Nice.